Vous écoutez
RMC.
RMC.
Contre l'Espagne, il en a fait quoi du spot? Il a cassé l'écran.
Bien sûr.
Mais donc un joueur qui casse l'écran, qui à chaque fois qu'il joue est le meilleur joueur, on va le mettre sur le banc au début de la compétition officielle.
Gueule, hein. Crever l'écran même.
L'assiette gâchée à 5 euros,
voilà,
un 5 euros de supplément.
Ça, ouais,
ça, j'ai un gros problème. C'est du faire volonté ou c'est pas du faire volonté?
Fenerbahçe, c'est danser avec les stars version foot.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h sur RMC, merci d'être avec nous. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast, toi qui nous regarde en direct également sur After Foot TV ou sur la chaîne YouTube de l'After. Avec ce soir, Elton Mokolo, salut Elton.
Salut Nico, salut à tous.
Walid Achachour fait sa rentrée dans Génération After, salut Walid.
Salut Nico, salut tout le monde.
Et la nouvelle voix de l'After qui lance sa saison, Adem Djouadi est avec nous, salut Adem.
Salut Nico, salut à tous.
On a reçu des messages depuis début de semaine, mais elle commence quand la nouvelle voix de l'After et tout? Est-ce que c'est une opération bidon? Ben non. Il est là. On n'a pas sillonné la France
pour rien.
Pour embaucher un fantôme. Voilà, c'était là, Adem.
Présent.
T'as fait un effort en plus. C'était en vacances sur la Côte d'Azur. Il est remonté pour l'émission. Il repart demain. Quoi. Il fait une chano.
Le sélectionneur il appelle, il faut répondre présent.
Exactement. Les amis, on est ensemble jusqu'à 22h. Vous le savez. Évidemment, on va consacrer le début de cette génération à faire au tirage au sort de Ligue des Champions. Le PSG qui affrontera notamment le FC Barcelone et Manchester City. Lille qui affrontera le FC Bayern et Arsenal notamment. Et puis Lens également. Hein, City pour les Lensois notamment. Et Bodø/Glimt, Liverpool aussi pour eux. On va se demander, se poser la question de savoir si on peut faire un 3 sur 3, tiens, si les 3 peuvent sortir de la phase de ligue pour voir un minimal et les barrages. On va en débattre ensemble. Ce soir dans Génération After aussi, Elton veut parler de Lille, semaine cruciale, fin de mercato également, le dossier de Mathias Fernandez-Pardo écarté du groupe aujourd'hui, d'ailleurs on va en parler, puis le Lille-PSG demain soir, crucial sitôt. J'ai hâte d'avoir tes arguments quand même. On va t'écouter attentivement.
J'ai élargi, j'ai dit semaine cruciale.
Ah, excuse-moi, d'accord.
Oui.
Ok, on verra ça dans un instant. Walid veut parler de Monaco, qui joue actuellement, on y va dans un instant, son barrage en Conference League et qui mène 3-0, qui donc va se qualifier pour la phase de Ligue. Walid, Monaco est l'équipe de Ligue 1 qui t'intrigue le plus. Tu nous diras pourquoi. Et puis tiens, Fonseca, on va revenir sur la déception lyonnaise, encore une hier soir. Est-ce facile d'attribuer la responsabilité en grande partie à Fonseca? Toi Adem, malgré la défaite de Lyon, est-ce qu'elle implique l'OL doit être à la deuxième place du foot français cette saison? On parlera de Barcola, les infos mercato elles sont nombreuses ce soir encore une fois, ce sera le cas jusqu'à la fin dans 6 jours désormais. Et à 22h, l'after avec Gilbert, salut Gilbert.
Salut les gars, justement le mercato sera l'élément central de l'after tout à l'heure puisqu'on a fait venir le faucon. Fabrice Hawkins sera là, donc l'avantage de Fabrice c'est qu'il peut balayer toutes les infos, tous les clubs, toutes les rumeurs, décrypter tout ce qui s'est passé ces derniers jours, l'histoire d'Embélé notamment, ce sera intéressant d'avoir son avis. Donc on va parler de tout ça pendant au moins une heure ce soir, plus le tirage de Ligue des Champions. Les quatre drôles de dames seront là tout à l'heure pour connaître notamment ce qu'il faut savoir de Côme, de Bratislava et autres Galatasaray, quoi qu'on n'a pas de drôle de dame turque.
Bratislava, mais c'est dur aussi, non?
Moi, ce qu'il faut. Bratislava, coach, Yaya Touré.
Ouais. Exactement.
Oui, oui.
Ouais. Moi, à part ça.
Drôle de dame,
à part ça, Yaya Touré, coach.
Voilà. Drôle de dame, non.
On va apprendre à les découvrir, en fait.
Et puis la Ligue 1 qui reprend, évidemment, comme tous les jeudis, on va parler des matchs de Ligue 1 du week-end, donner notre avis, notamment sur le Lille-PSG demain, d'autant qu'il y a une conférence de presse de Luis Enrique aujourd'hui.
Tout à fait, il a parlé de Dembélé, il a été plutôt habile en conférence de presse, Luis Enrique. Merci Gilbert. L'after à 22h. On va aller faire un détour quand même par le stade Louis II, Aurélien Tiercin, au commentaire de ce duel. Tout va bien pour l'AS Monaco, Aurélien.
Oui, salut messieurs, c'est tranquille, hein. 3-0, l'heure de jeu, Paris Brunner qui enchaîne les buts, Mamadou Koulibaly à la 43e, Alexander Golovin à la 50e qui est d'ailleurs sorti, il laisse sa place à Mika Biret. Bon, il n'y a pas grand chose à ressortir de ce match, les Polonais c'est beaucoup trop faible, mais il y a pas mal de bonnes choses quand même avec Nazinho et Mamadou Koulibaly qui sont de très bons contre-attaquants. Ben voilà, on le savait déjà, mais c'est pas mal côté AS Monaco qui va encore se créer une occasion avec justement Mamadou Koulibaly, la frappe du gauche, c'est contré, 3-0, l'heure de jeu ici à Monaco.
Paris Brunner, on en parlera tout à l'heure peut-être, c'est pas mal, hein.
Ouais,
5 buts en départ contre Liverpool,
l'un des monégasques les plus performants sur la précision,
ça fait partie des joueurs intrigants qu'on va suivre cette saison.
Intrigant, c'est le mot, je trouve. Excitant, intrigant pour
excitant,
l'instant.
Qu'est-ce que tu entends par intrigant?
C'est une curiosité.
Très curieux.
Une curiosité.
Très curieux de ce que ça va donner.
Bon, les gars, le tirage au sort. Voilà. Alors, déjà, on peut dire une chose, c'est qu'il faut s'y habituer. Il y a zéro émotion sur ce tirage.
Non, au passage, Nico, faut le dire.
Très peu, c'est insupportable.
À un moment donné.
Ce tirage IA, automatisé, avec un faux bouton. Tu m'arrives, c'est une catastrophe.
Nico, on a plus moi, je te dis, le chapeau 1 devrait arriver à la fin parce que dès que tu as le chapeau 1, c'est terminé.
Oh, ouais, le reste, c'est terminé.
C'est d'une longueur. Tu l'as tué, quoi.
Bah oui, c'est ça.
Heureusement qu'on a les deux clubs.
T'as tué comme un vrai plaisir de la saison.
Les équipes affichées en bas à gauche, en tout petit, là, on a l'impression qu'ils ont même pas envie de les mettre. Franchement, c'est.
Non, mais c'est simple, pour moi, tu ouvres ton cadeau de Noël à 20h. En 24 décembre. Je veux dire, le chapeau 1, dès lors qu'il est sorti, bah, l'effet de surprise, il est
terminé. Pas de repas derrière, c'est ça, quoi.
Pas de repas derrière, ouais. Non. Tu vas te dormir.
Il suffit que tu sois supporter d'un club du chapeau 3 ou 4 et t'as déjà tout le menu avant de.
C'est ça.
Non, mais c'est catastrophique. Ce serait comme ça, faut s'y habituer. C'est pas nouveau. Alors, commençons par le Paris Saint-Germain quand même, les gars. Vous allez me poser un mot, là, sur le tirage du PSG. On fera Lille, Lens. On vous attend au 32-16, supporters parisiens, lillois et lensois, pour qualifier ce tirage. Paris, je le rappelle, à domicile, ce sera le Barça, la Roma, Galatasaray et Bratislava de Yaya Touré. Et Paris ira à City, Aston Villa, Villarreal et Como de Fabregas, évidemment. Walid?
Tirage sexy, tirage le plus abordable par rapport aux deux saisons précédentes, je pense. Parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, bah, avec ce format-là, vu qu'il n'y a pas quatre équipes du championnat de Ligue 1, eh bah, ils ont souvent des tirages très, très compliqués. Là, je trouve que c'est plus abordable. Puis on a de la grosse affiche, on a du coach sexy, on va avoir Fabregas, on va avoir Villarreal, on va avoir la Roma avec Gasperini. Je trouve que il y a des affiches intéressantes pour le Paris Saint-Germain et que le top 8 doit être respecté à la fin de la phase de ligue, je pense. Ouais. Top 8 qu'ils n'ont pas fait sur les deux premières années.
Exactement.
C'est vrai que t'as un clin d'œil, du calendrier parce que tu vas affronter régulièrement l'école espagnole avec Inigo Pérez, avec Unai Emery, avec Cesc Fabregas. Tout ça, c'est intéressant.
Ouais.
Mais après, au-delà de ça, ouais, c'est vrai que tu vas avoir un calendrier qui est pour moi abordable, qui est aussi très intéressant sur le plan du jeu avec le retour ou plutôt la découverte de la Ligue des Champions pour certaines équipes. Mais en tout état de cause, oui, le PSG par rapport au top 8, c'est l'objectif.
Il y a un PSG Barcelone au Parc.
C'est ça qui régale.
C'est l'objectif, mais je vous trouve un peu gentil, les gars, parce que là, le tirage, je le trouve coriace quand même. Par rapport à l'année dernière, je le trouve à peu près du même niveau.
Hein. Oh, c'est quand même moins de
si tu retires Bratislava, tu tapes quasiment tous les plus gros qu'il y avait à prendre. Je pense à Como dans le chapeau 4.
Oui, mais ça reste quand même une découverte de la Ligue des Champions.
C'est le chapeau 4 qu'il fallait pas prendre.
Voilà. Oui, d'accord.
T'as la Real en chapeau 3, t'as Galatasaray en chapeau 3.
Ils n'ont pas fait top 24 l'année dernière.
C'est sûr, mais par rapport aux autres qu'il y avait dans les pots, tu pouvais taper mieux.
Moi, je trouve que si on regarde les chapeaux, les 4 chapeaux par rapport à l'année dernière et l'année d'avant, on a baissé de niveau. Donc
Au global, le Bilbao, ouais, chapeau 4, c'est meilleur que comme chapeau 4 cette année.
Moi, je me rappelle.
Ouais, t'avais du Leverkusen aussi.
La première année, quand tu vas au Bayern, quand tu vas à Arsenal, quand tu reçois Manchester City, la première année, tu vois, il y avait Girona qui était un peu la hype. Bon, entre temps, ils sont descendus. Mais t'avais Stuttgart là-bas. Je trouvais que c'était quand même très, très.
Non, je te parle vraiment de l'année dernière avec le Sporting, Leverkusen, ce genre de club-là. Je trouve que c'est du même niveau.
C'était quand même très solide l'année dernière, moi, je trouve. Quand même. Après, il y avait quand même pas mal d'équipes de première ligue. Notamment, t'avais Tottenham à la maison, il me semble. T'avais Newcastle à la maison. Voilà, tu devais aller à Bilbao, tu devais à Sporting. Là, je trouve que par exemple, la Roma, ils n'ont pas fait la Ligue des Champions depuis 2018. Villarreal, l'année dernière, ça a été un scam. Fabregas l'a dit, mais.
Fabregas, il l'a dit, ça va être une saison très difficile. Ils découvrent un nouveau monde.
Et oui, ils vont jouer tous les trois jours.
Ils étaient promis il y a deux ans.
Et puis la Serie A en Ligue des Champions sur les dernières années. Voilà, quand t'es le PSG. Après, de toute façon, t'es le PSG, donc je suis d'accord avec toi, Adem. T'es le PSG aujourd'hui. De toute façon, quoi qu'il arrive, t'es favori sur toutes les confrontations. Et puis le Barça, tu vas pas au Barça, tu reçois le Barça aussi. Donc, je trouve que par rapport aux trois, après c'est peut-être touche-touche avec l'année dernière, mais par rapport aux trois, je pense que c'est le tirage le plus facile, c'est pas le bon terme parce que t'es en Ligue des Champions, mais par rapport à ce que représente le PSG, c'est le plus abordable.
Bon, on verra ça, bien sûr. Ça démarra le 8, 9, 10 septembre, Ligue des Champions. Passons à Lille, les gars. Lille, à domicile, ce sera le FC Bayern, le Betis Séville, ballon de pied, Bratislava, là aussi.
C'est quoi le FC Séville?
Ballon de pied. Real Betis, ballon de pied.
On va pas avoir des ennuis.
Real Betis, ballon de pied. J'ai pas dit FC, hein.
Ah oui.
Galatasaray, à l'extérieur, il faudra aller jouer sur la pelouse d'Arsenal, à Rome, Stuttgart, Bodø/Glimt. Là, c'est costaud, quoi.
Ouais. C'est compliqué.
Là, c'est compliqué. Ça sort ou pas? Ça passe,
Si on doit comparer à l'année où ils font top 8, il y avait aussi un gros programme, hein. Atlético, Real Madrid, Juventus. ça passe ou ça casse en fait avec Lille. C'est soit ça fait top 16, soit ça fait hors top 24 parce qu'ils ont cinq matchs.
C'est ça.
Ils ont cinq matchs parce que pour moi les deux chapeaux 1, ça va être très compliqué.
FCB Arsenal, c'est compliqué.
Ouais, pour moi, c'est les deux plus gros que tu pouvais avoir parce que tu peux pas avoir le PSG.
Real Betis, compliqué.
Oui, non, en fait, non,
Roma.
En fait, Real Betis, en fait, ton Europa League là, Real Betis, Roma,
des équipes qui reviennent,
Bodo Glimt,
Galatasaray, c'est relou. Hein.
En fait, t'as pas de match où tu pars vaincu, mais t'as pas de match où tu pars vainqueur en fait.
Moi, pour l'instant, je dis que ça sort. Pourquoi? Parce que quand on prend l'attaque du week-end dernier de Lille avec Giroud en pointe, Mbappé et Tan à droite et Ona à la gauche qu'on connaît pas, qui a fait quoi 8 buts, 7 passes en Eredivisie. Donc tu divises par deux. Il y a la taxe en France quand t'arrives. Si on a cette équipe-là sans renfort, pour moi, ça sort.
T'as Bakwa qui vient d'arriver.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais offensivement, pour moi, c'est beaucoup trop léger.
T'as Eggerman qui va revenir en novembre.
Ouais, fin d'année. Ouais, on en a parlé hier. Dans quel état?
Oui, dans quel état? Oui, mais enfin globalement.
Si tu perds encore Fernandez Pardo, si tu remplaces pas,
tu vas faire. Je pense que sur la dernière semaine, il y aura des joueurs qui vont arriver.
Sûrement.
Mais notamment au milieu de terrain, peut-être un Djaoui Cissé ou. On sait
Djaoui Cissé.
Ouais, peut-être. Ouais.
Ah ouais.
Ouais, peut-être.
D'accord.
Information au pied.
Petite information comme ça balancée.
Mais non.
11, peut-être Djaoui Cissé.
Confiance en Olivier Létang, mais tu sais qu'aujourd'hui, il était dans le loft. Enfin, à Rennes, il est plus désiré.
Mais ok.
Ce type de piste.
J'avais pas la piste.
Ce type de piste. Aime beaucoup.
J'aime bien cette piste aussi, moi.
Ce qu'il a fait Tanguy Kouassi, tu sais, en début de mercato. Mm. Donc, non, mais pour revenir sur Lille, ça va être dur, ouais. Il va falloir se bagarrer. Et puis, il y a la question, Carlo Ancelotti, la puce révélateur. Il y a la question David Ancelotti. Donc, ouais, il y a baston. Ça va être très, très homogène. Et il va falloir que Lille soit au
mais
rendez-vous.
Mais non, ce qui peut aider Lille, pour moi, c'est la culture du mini-championnat. Parce qu'ils l'ont eu à travers la Conférence League, ils l'ont eu à travers la Ligue des Champions 2024-2025, la Ligue Europa 2025-2026. Donc, cette capacité à enchaîner, cette capacité, justement, à recevoir, se déplacer, ça peut les aider pour, justement, affronter, des équipes qui étaient, dans leur paysage. Je veux dire, ils vont retrouver la Roma qu'ils avaient battue, la saison dernière, avec notamment le miracle d'Auxerre, donc ça peut les aider au moment de justement aller sur ce type de terrain et ne pas avoir d'appréhension particulière, parce que ce soit la Roma, que ce soit le Real Betis, c'est des équipes qui appartiennent à son paysage.
Il y a un savoir-faire club dans les compétitions européennes quand même sur les dernières années. C'est rarement ridicule quand même Lille.
Lille, tu l'as dit avec un coach différent aussi.
Oui.
Lille aujourd'hui sur les 5 dernières années en termes de performance européenne, dans la PSG, c'est meilleur.
Ouais, en Ligue 1, oui.
Oui. En Europe, hein.
Ah, il y a Lyon qui fait une.
Non, quand j'ai en Ligue 1, je te parle. Oui,
l'équipe de Ligue 1.
Après, la question à se poser, ça va être aussi s'ils vont être capables de jouer sur les deux tableaux, Ligue 1 et Ligue des Champions. Pour l'instant, avec l'effectif actuel, je les vois pas vraiment arriver.
Aujourd'hui, tu peux dormir en Ligue 1 6 mois et faire un run pendant 2 mois.
Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire encore cette saison? Ça, c'est la question.
De toute façon, c'est les mêmes questions. Mais aujourd'hui, oui, ça va pas être simple. En tout cas, ils ont un calendrier qui est pas simple du tout. Après, moi, il y a 2 ans, je les voyais pas sortir du top 24 et ils ont fait top. Puis donc je vais respecter quand même le club.
Bon, on verra, il y aura des points à prendre face à Bratislava. J'ai pas vu jouer encore l'équipe de la Touré.
Non plus.
Mais d'accord que non. Ouais. Bodo Glimt qui sort aussi des barrages, hein, d'ailleurs, encore une fois.
Mais ils vont à Bodo Glimt, contrairement à Lens.
Ce sera à Bodo Glimt.
Lens qui reçoit Bodo Glimt, donc ça va être.
Le calendrier va être important aussi, hein, parce qu'il sortira demain. Si tu vas jouer décembre Bodo Glimt.
Ouais. Après Monaco, on a gagné l'année dernière.
1-0.
Ouais.
C'est un peu plus tôt dans la saison.
Ouais, plutôt.
Lens, écoutez bien les amis, à domicile, à Bollard, ce sera Manchester City, Bodø Glimt justement, Sporting Portugal, comme à l'extérieur, Anfield, Liverpool, Club Bruges, Leipzig, Slavia Prague. Oui ou non, ça passe?
Oui.
Oui.
Moi je reste.
Franchement, ça va.
Oui, moi je reste.
Enfin, ça va.
Je reste mesuré.
Par rapport à Lille, ça va.
Je reste mesuré, moi.
D'accord. Enfin, t'en sors bien, t'es chapeau 4, hein.
Chapeau 4, tu t'en sors très bien, ça, bien, hein, trouve,
hein. Non, pour moi, c'est un gros programme. Par contre, la config extérieure domicile avantage Lens par rapport aux équipes qui prennent. C'est-à-dire qu'ils vont pas à Bodø Glimt, ils reçoivent Manchester City.
Ils peuvent
City,
faire des points à Bollard, ouais, voilà, contre Koum, Sporting et Bodø.
Il faudra voir Manchester City à quel moment tu les prends, si c'est en janvier ou si c'est maintenant, parce que je pense que cette équipe-là, elle est pas prête. Donc tu peux peut-être faire une Lens Arsenal. En fait, il y a 2-3 trucs positifs sur la configuration. Maintenant, j'attends de voir quand même les confrontations. Ils ont quand même des équipes qui sont réputées pour ce type de compétition. Et puis la réalité, c'est que Lens n'est pas une équipe européenne.
On parle d'une équipe chapeau 4.
Oui, non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que leur vécu européen est inexistant.
Or, ouais, ils sont leur troisième participation au quatrième.
Sur la dynamique récente, tu parles de Lille, par exemple, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Tu vois, ils se sont fait sortir par le Panathinaikos pour aller en Conference League. Contre Fribourg, bon, ils sont reversés, ils font plutôt une belle campagne avec la victoire contre Arsenal, mais contre Fribourg en Europa League, ils se font sortir en barrage. Et sinon, c'est quoi, en fait, Lens?
Non, mais de toute
donc,
façon.
Ils vont retrouver un peu cette énergie avec un Bollard en feu. Donc, ça va être excitant. Moi, j'ai hâte d'avoir ces matchs-là.
Moi, mais je suis plus sur Lens aujourd'hui que sur Lille. Hein.
Ah ouais, ouais. Ok, ok. Pourquoi pas
c'est quand même une continuité, même s'il y a un nouveau coach.
Enfin, sur l'expérience, le vécu européen.
Ouais, mais ça, vraiment.
Il y a un nouveau coach.
Ça c'est majeur pour toi, ça.
Un nouveau coach, c'est une bonne nouvelle.
Non, justement. Attention, on verra. Il y a un nouveau coach. La question de Topoller, on va voir, on en a parlé lundi.
Notamment sur les dynamiques récentes sur l'Olympique Lyonnais, ça s'est encore vérifié, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas rien.
Ah oui, oui. Cette vérité-là n'en fait pas non plus une théorie.
Oui, mais tu m'as dit la même chose avant Lyon.
On parle d'un club aussi qui va jouer sans pression. On parle d'un club qui, déjà, de par sa présence en Ligue des Champions, a déjà réussi. Enfin, à Bollard, ils vont pas attendre beaucoup, beaucoup plus de résultats que déjà être en Ligue des Champions et bien figurer. Bon, moi, je pense que si Lens est aujourd'hui 25 ou 26, on va pas leur tomber dessus. Je pense que les supporters vont leur tomber dessus. Oui. Alors qu'à Lille, ça passera beaucoup moins bien. Oui. Et quand je vois le calendrier qu'ils attendent, ils ont la chance de prendre le Slavia Prague à l'extérieur. Ils prennent pas un gros match là-bas. T'as des points à récupérer. T'as le Sporting. T'as Côme. T'as même Leipzig qui est pas très bien ces derniers temps. Donc au final, tu te retrouves sur des équipes contre qui tu vas pouvoir faire sûrement des coups. Contrairement à Lille où je vois pas beaucoup de marge de manœuvre.
Il y a eu le passage de Jean-Louis Leca sur, avec l'analogie par rapport à Bodø/Glimt. Tu dois t'inspirer de ça avec le facteur Bollard. Tu dois capitaliser sur tes matchs à domicile pour prendre le plus de points possible. 2023-2024, t'avais pris 7 points sur 9 et ça t'avait pas suffi pour sortir de la phase de poule. Mais à l'époque, c'était une phase de poule qui était totalement différente. Là où aujourd'hui, t'as beaucoup plus d'équipes. Et le deuxième facteur, et c'est là où je l'attends, c'est Topmöller. Parce que là, t'as pris un entraîneur avec une dimension un peu plus européenne, un entraîneur qui a baigné dans cette exigence en tant qu'adjoint. Là, en tant que numéro 1, encore plus, c'est sa deuxième expérience consécutive en Ligue des Champions après Francfort. Il doit leur faire passer un saut qualitatif.
Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé la communication de Leca et la comparaison avec Bodø/Glimt chez Rotten. Mais la réalité, c'est qu'ils sont en retard par rapport à Bodø/Glimt.
Dans quel sens?
Mais parce que Bodø/Glimt, ils se sont construits une histoire en Europe, en conférence
mais
ligue.
Mais eux, ils découvrent aussi la Ligue des Champions.
Oui, d'accord. Mais tout à l'heure, tu disais le savoir-faire de la phase de ligue. Comment gérer une phase de ligue? Mm-hmm. Là, ils vont découvrir ça.
Bodø/Glimt avait fait aussi demi-finale d'Europa.
Mais ils ont fait demi-finale d'Europa League. Mais même avant ça, ils avaient fait des coups sur la Roma de Mourinho. Oui, mais même la Roma de Mourinho en phase de ligue. C'est même plus une phase de ligue. Mais en tout cas, ils leur avaient fait mal. Là, la réalité, c'est que Lens, il n'y a pas la récurrence. Et moi, même si cette équipe-là, elle est très sexy, que le coach, je trouve très sexy, mais attention, il y a aussi des vagues. On l'a vu contre Auxerre, même à 11 contre 10. C'est du jeu ping-pong. Mmh. Et qu'il y a un moment, en Ligue des Champions, maximiser les temps forts, minimiser les temps faibles. Et ça va être intéressant. Maintenant, comme vient de le dire Adem, bon, aujourd'hui, sur le ranking de pression, il y a le PSG, Lille et Lens. En tout cas, moi, dans mon esprit. Maintenant, faudra voir comment tu te fais éliminer. Si tu te fais éliminer, tu fais une Nice en Europa League, 34 sur 35, t'as mis 3 points, etc. Moi, je serais quand même... L'indulgence, en fait, elle va baisser à ce moment-là. Tout dépend, en fait, de l'histoire, parce que t'as quand même un enjeu. Tu dois mettre en vitrine tes joueurs. Ton coach, tu l'as amené aussi pour avoir une attractivité là-dessus, pour faire des coups. C'est comme ça que tu changes de dimension. Donc, il y a quand même un enjeu d'image, peut-être pas forcément de résultats, mais un enjeu d'image autour du RC Lens en Ligue des Champions.
Et aussi, on sait pas comment vont répondre les recrues sur la durée, parce qu'il y a eu des beaux coups avec Titraoui, avec Cuisance. Il y a eu des belles promesses, on l'a vu au Trophée des Champions. Mais est-ce que ça va durer sur la continuité de toute la saison? Est-ce qu'ils vont pouvoir répondre présent dans ces grands rendez-vous? Est-ce que l'équipe va répondre au rythme, à la cadence infernale des deux matchs par semaine? Parce que Lens, l'année dernière, c'était une équipe qui jouait un seul match par semaine aussi. Ouais. Je pense que ça va beaucoup compter. Et l'un dans l'autre, avec le nouveau coach, les nouvelles recrues, les deux matchs à gérer par semaine,
le mercato, moi, sur la dernière semaine, là, il faut aller faire un coup encore. Hein.
Surtout,
derrière.
Tu parles de Lens, là.
Ah ouais, pour moi, Lens pourra aller s'étoffer encore. Je pense que s'il y a une opportunité de marché à faire du côté de Lens, ils vont pas s'en priver. Fofana va sûrement aller en prêt à Oua, ouais. Il doit avoir un peu de mouvement pour étoffer cet effectif.
Mais beaucoup plus quantitatif ou qualitatif, parce que c'est
plus value 11.
Ouais. Moi, je suis d'accord.
Même défensivement.
Oui, surtout défensivement. Baïdou, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Il défend Cristal.
Baïdou, lui, c'est
pour moi Gagnou, il est plus stopper que chef de défense que Kylian Antonio a des grosses qualités, mais pour moi en Ligue des Champions, il va falloir avoir un mec un peu plus costaud en termes de CV.
Il faudrait une Malang Sarbis, quoi.
Oui, voilà, exactement.
Exactement.
Tiens, David est avec nous, 32-16, supporter Lillois. Salut David.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Salut David.
Bonsoir David.
Bon alors, ton tirage, je rappelle, hein, Munich, le Bayern, le Real Betis, Bratislava, Galatasaray, Arsenal, la Roma, Stuttgart, Bodø/Glimt. Est-ce que tu sors de ton de la phase de ligue et tu vas en barrage à minima?
Oui, bah vu le tirage, on a bon espoir d'au moins accrocher les barrages. Sur le tirage, il y a forcément le Bayern et Arsenal où on sait que ça sera compliqué. Le Bayern, ils sont toujours forts. Ils passent jamais à travers contre les équipes contre qui ils sont plus forts. Donc, on a peu d'espoir pour contre le Bayern. Mais sur les autres équipes, oui, normalement, on a notre carte à jouer. Donc, on espère au moins faire plusieurs victoires à domicile, aller accrocher la Roma, pourquoi pas, faire un bon résultat contre Galatasaray. Ouais, non, c'est sur le tirage, ça peut passer au moins pour les 16e et pourquoi pas un peu plus, parce que bah, y a, en fait, à part le Bayern, et bon, il y a Arsenal aussi, mais on peut battre toutes les autres équipes. Quoi, le Real Betis,
tu peux même dire le Bayern si t'as envie, hein.
Parce que... Non, le Bayern, bah,
non, mais attention. Pas,
ouais, alors on peut toujours rêver, on peut toujours avoir un exploit.
Non, mais t'es quand même résolument optimiste, David. Hein.
Comment c'est les résolument optimistes?
Mais non, mais on peut battre tout le monde. Oui, on peut.
Enfin, ils avaient battu le champion d'Europe, le Real Madrid, il y a 2 ans.
Ouais,
et à l'époque, on était sur les mêmes considérations.
C'est une équipe qui peut passer au travers de certains matchs.
Là, on parle quand même des deux des trois meilleures équipes d'Europe. Hein,
mais bon, on verra.
Non, mais à l'instant T.
On parle de deux des favoris de la Ligue des Champions.
Bayern et Arsenal, aujourd'hui, tu pourras peut-être faire un exploit à Coupe de France, il n'y a aucun souci. Mais la réalité, c'est que 99% de chances que ça se passe mal sur ces deux matchs.
Après, c'est aussi une formule qui autorise le droit à l'erreur pour les plus grosses équipes.
Format Coupe de France. Peut-être que tu vas avoir du turnover sur ces deux matchs-là. Tu ne sais pas quand est-ce que tu les prends. Donc, bien évidemment, qu'il y a un contexte à mettre en place.
Match, tu te dis Lille par favori, à part Bratislava.
Slovan,
c'est tout.
Oui.
Après, c'est tout.
En fait, le truc, c'est quoi avec Lille, Nico? C'est que si tu m'expliques que Lille peut taper le Real Betis, indépendamment des affiches, hein, c'est-à-dire pas en cumulé, ils peuvent taper le Real Betis match par match. Hein, je te dis Real Betis, Galatasaray, l'AS Roma, Bodø/Glimt, Stuttgart. Non, mais je te parle pas. Non.
Vas-y.
Non, je te dis décorelle la continuité. Non. Pas dans la continuité, c'est-à-dire match par match. C'est-à-dire, si tu me dis, dans ces matchs-là, Lille peut gagner un par un, pas tous les matchs, mais au cas par cas, dans ces affiches-là. Je te dis oui, il n'y a pas de
problème.
Enfin, je ne prends pas de la chaise. Par contre, tu me dis que dans ces matchs-là, Lille peut se faire surprendre, se faire piéger, je ne tombe pas de ma chaise non plus.
Parce que faut
pas. En fait, c'est ça, en fait, le truc où j'arrive pas à me situer avec Lille.
Parce que la réalité, c'est que si on inverse la casquette.
Vas-y, David.
Si on peut me permettre, c'est de parler du mercato, quand même, qui est assez décevant, pour là, pour tout le monde. Vous avez entendu les temps tout à l'heure qui parlait de quand on lui demande qu'est-ce que ça va donner le mercato, il nous enfume encore avec une phrase sur De La Fuente là qui parle d'équipe. Mais pour nous c'est très décevant. Hein. Cette année encore 33 500 abonnés pour le PSG, là on est encore 48 000. D'année en année il y a un nombre de fous, il y a un club qui est dimensionné pour le top niveau. Mais là les investisseurs va falloir qu'ils s'expriment.
Hein.
On les entend jamais les mecs de chez Merlin là.
Ils ont fait
un super boulot hein, après Lopez, ils ont épongé les dettes, c'est magnifique. Hein. Rien à dire, mais là on est en 2020, on va être en 2027 là, ça fait 3 ans. Là on aimerait bien avoir une équipe qui grandit un peu plus. J'étais vachement d'accord avec la ligne de Daniel Riolo il y a 2-3 jours là sur l'after. Vendre 100 millions, perso les 100 millions on les a pas dans la poche. Nous on aimerait bien voir des investissements, on aimerait bien voir le club se développer parce que maintenant on est en Europe depuis, moi je suis le club depuis les années 2000, on est en Europe quand même quasiment 1 an sur 3, donc voire 1 an sur 2.
Même c'est pas mal d'avoir un peu d'ambition,
ça serait révéler les gens.
Non mais t'as raison, c'est des choses qui nous échappent, on n'est pas dans les comptes du LOSC, hein. On sait qu'ils sont assainis depuis au moins 2 saisons désormais.
Tu rentres,
mais en général les fonds d'investissement on les entend pas, tu as compris, c'est toujours les présidents qui sont là pour parler et courber les chines. C'est les 100 millions de Boisdi. Évidemment, quand on voit que Martin Terrier est une possibilité, que les temps veulent faire, mais le salaire est trop élevé, si on raisonne de manière assez simpliste, on a du mal à comprendre comment c'est possible, en fait. Quand on voit 19 ans à 100 millions.
Nico, c'est simple. C'est fou. Moi, je suis pas d'accord, mais ils vont t'expliquer le précédent, 2021, on en revient toujours à la même histoire. C'est-à-dire qu'on a pris un club qui était quasiment mort.
Mais comment savoir un peu le précédent, là, quand même?
Oui, mais moi, je suis d'accord.
Je parle de 2021, mon ami, là. On est en 2026.
Oui, mais ils vont toujours nous sortir ce narratif pour justifier cette
politique
de 20 ans. 170 sur Pardo et Boisdi,
oui, à un moment donné.
Et que Terrier est trop cher pour toi,
pour un prêt, achat. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, il t'a quand même fait Diakité Chevalier l'année dernière.
Non, mais là, t'es assis sur.
Oui, mais vous comprenez, les droits télé sont en berne.
Oui, d'accord.
Comprenez. Non, mais je fais le discours des dirigeants.
Oui, mais
en fait,
ça peut s'entendre, mais il y a un juste milieu à avoir.
Maintien un niveau d'ambition, d'exigence,
et une prise de risque au moins.
Ben oui.
Bah, voilà. En soi, le discours de l'étang, en fait, lui, c'est un bon président, mais c'est un bon président.
C'est un très bon président.
Donc, nous, en fait, à Lille, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un investisseur avec de l'ambition, quoi. Mais là, on sait, en fait, on a l'impression d'être pris en otage, quoi. On est pris en otage par un fonds d'investissement qui gère le club comme une entreprise, mais on sent qu'on a un plafond de verre au-dessus de la tête et que d'année en année, on est destiné à
démarrer zéro, quoi. Lille est dans une optique
bien bosser, mais
Lille est dans une optique d'optimiser, en fait. Lille est dans une optique d'optimiser. Ils veulent faire avec moins. Et faire plus sur le terrain et pour ne pas se mettre dans la merde comme Marseille ou comme d'autres clubs en se disant on va aller dans la course à l'armement pour la Ligue des Champions et si ça arrive pas on est dans la merde. Eux ils préfèrent.
Mais on voit bien aussi cette politique, elle a des limites parce que là on est sur des cas intéressants. Là on était sur un bon petit joueur de Feyenoord, un milieu de terrain,
on traîne,
on attend que ça se débloque et bah derrière les mecs de Feyenoord ils en demandent le double.
Bah, faut se dire que
c'est fini, qu'on va faire la saison avec juste André en milieu défensif, quoi.
Il faut se dire que c'est une phase d'austérité et que peut-être les temps espèrent, il va y avoir un appel d'offres dans pas longtemps, peut-être qu'ils espèrent sortir la tête de l'eau au moment où peut-être il y aurait de l'argent qui rentre et que pour l'instant il est sur les derrière du club, il veut pas finir dans des situations comme Lyon, Marseille.
Fin d'année peut-être,
après,
on verra.
C'est une chose d'être raisonné pour le LOSC, ça en est une autre, d'être même pas top 5 des plus gros investissements dans une Ligue 1 où il y a de l'austérité. Je veux dire, même dans l'austérité, il y a des clubs de Ligue 1 qui dépensent quand même.
Oui, mais dans cette Ligue 1, ça peut suffire pour finir top 5, donc je pense que
mais pour le coup, le meilleur exemple, c'est 2025-2026. Olivier Létang vend 50% de son équipe type et il termine 3e. Donc ça justifie ce qu'il veut.
Avec plus de 10 points de retard.
Voilà. Merci David. On a entendu la demande auprès des propriétaires du LOSC. À très vite sur RMC. Dans un instant, il y en aura deux drôles d'âmes avec nous. Julien Laurence pour l'Angleterre. Parler du tirage d'Arsenal notamment, de City. Et Edgar Grelot pour parler du tirage du Real, du Barça en priorité.